Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en ligne pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Ce soir, nous poursuivons le cycle consacré aux luttes féministes entamées le mois dernier. La première séance du 18 janvier était consacrée aux violences sexistes. Ce cycle, donc intitulé « Le féminisme n'a jamais tué personne ». Ce soir, nous poursuivons le cycle avec une séance d'un format un peu particulier, conférence 13 minutes, où nous avons demandé à plusieurs intervenantes de venir nous parler de leurs recherches, de leur militantisme, de leur écriture, depuis leur point de vue situé. Alors pour cette rencontre, je suis absolument ravie d'accueillir Camille Froide-Vaumétry, Mouniel Cotny, Iris Bray et Noémie Delattre. En revanche, je dois excuser Geneviève Brisa qui devait intervenir ce soir, mais qui malheureusement est souffrante. Je remercie aussi bien sûr nos deux partenaires qui sont le magazine Cosette et la newsletter Les Glorieuses. Vous pouvez bien sûr vous abonner aux deux directement en ligne. Et bien sûr, je vous invite via le compte Facebook de la BPI à poser des questions en direct et nous en prendrons quelques-unes à la fin puisque nous ferons revenir les intervenantes ensemble à la fin pour répondre à quelques-unes des questions que nous prendrons donc via le compte Facebook. On va commencer tout de suite la rencontre avec Iris Bray, que je présente. Donc Iris Bray, vous êtes journaliste, autrice et critique de cinéma, spécialiste de représentation de genre et des sexualités au cinéma et dans les séries télévisées. Vous êtes chroniqueuse au magazine Les Inrocks et dans l'émission de Canal+, Le Cercle, Série. Et vous êtes autrice de deux livres majeurs, Sex and the Series aux éditions de l'Olivier en 2018 et Le regard féminin, une révolution à l'écran, toujours aux éditions de l'Olivier en 2020. Je vous laisse la parole.
Merci. Pour celles et ceux qui sont devant votre écran, il faut que vous compreniez que moi j'ai ce genre de micro, on pense que je vais être Madonna, mais que la salle devant moi est vide et que je ne m'apprête absolument pas ni à faire une performance, ni à faire un commentaire sportif, mais bien parler de féminisme qui est en lui-même quand même un combat. J'ai décidé aujourd'hui de partager des premiers éléments de réflexion autour de qu'est-ce que serait que les violences féministes, parce que j'ai vu un film il y a quelques jours qui m'a interpellée, qui s'appelle Promising Young Woman, et que j'ai aussi lu le livre d'une militante féministe qui s'appelle Irénée, dont le titre de l'ouvrage est La terreur féministe. Et dans ce livre-là, Irénée définit ce que pourrait être une violence féministe comme, je vais la citer du coup, comme une violence défensive et non oppressive. Et c'est cette notion-là en fait qui a commencé un peu le chemin de ma réflexion autour de est-ce que la représentation des violences féministes pourrait être un outil politique ? J'ai moi-même commencé à m'intéresser aux questions de regard masculin et de regard féminin au travers des représentations de violences faites aux femmes. J'ai grandi, je pense, comme tout le monde, en regardant de nombreuses scènes de violences sexuelles qui étaient représentées comme des actes érotiques dans des films ou dans des séries. Et je me souviens de moi, spectatrice, devant ces représentations et d'avoir des sentiments, on va dire, fluctuants. Parfois, il y avait de la colère, parfois, il y avait un malaise, parfois, il y avait de l'excitation. Mais je n'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi je me sentais obligée de regarder ces violences-là comme des actes érotiques. Et puis j'ai lu un texte qui a un peu changé ma vie, qui est le texte de Laura Mulvey, qui définit ce que c'est que le male gaze, et elle écrit ce texte en 1975, et pour moi ça a permis de nommer certaines choses que je ressentais. Laura Mulvey explique que le male gaze, en fait c'est une triangulation qui s'opère entre le spectateur, la caméra et le héros du film. Et que en fait, la caméra se fait le relais du regard du héros et que nous, spectateurs, spectatrices, on s'identifie au regard du héros qui lui prend du plaisir en regardant la femme comme un objet sexuel. Et que cette objectification du corps féminin, il passe par la mise en scène et donc par des codes visuels assez précis qui nous indiquent que ce corps-là est un corps désirable et que le héros va prendre du plaisir en regardant ce corps-là, en le fétichisant, en l'objectifiant et en le regardant parfois à son insu. Donc un regard voyeuriste, c'est ce que Freud nomme la scopophilie. Donc en nous positionnant dans ce regard du voyeur, le male gaze nous impose de prendre du plaisir à regarder des femmes comme des objets. Et le problème, c'est pas tant l'existence de ce regard, mais c'est son omniprésence. C'est que ce regard-là, il est absolument partout et il est tellement présent qu'on a du mal même à le déceler. Quand j'ai commencé à travailler sur mon livre « Le regard féminin », je me suis demandé comment cette notion de regard féminin allait s'articuler avec la notion de regard masculin de Laura Mulvey. Il était très important pour moi de montrer que le regard féminin n'était pas juste l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas des héroïnes qui regardent des hommes comme des objets sexuels. C'était de montrer qu'il y avait un autre regard féminin où l'érotisme ne naissait pas de la domination d'un corps sur un autre corps, mais au contraire d'un regard à égalité. C'était aussi ce regard féminin un moyen de mettre en valeur les expériences du corps féminin comme corps biologique, comme corps social ou comme corps collectif, si je reprends le terme de Geneviève Fraisse. Et pour moi, ce regard féminin, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, au lieu de regarder le personnage féminin à distance, il nous met dans son corps, il nous permet de l'accompagner, il nous permet de ressentir ce qu'elle ressent. Et il me semblait important de me détacher de la question de l'identification, qui était très importante dans le texte de Laura Mulvey, qui s'appuyait en fait sur un discours psychanalytique pour expliquer l'identification du spectateur au héros, et pour moi de me tourner plus vers la phénoménologie et de réfléchir au partage d'expériences et de me dire qu'en tant que spectateur ou spectatrice, on peut être dans le partage d'expériences d'une héroïne. Pour moi, le regard féminin, ce n'est pas le regard d'une cinéaste femme. Les hommes et les femmes cinéastes peuvent générer ce regard-là. Et toutes les œuvres ne rentrent pas dans un regard masculin ou dans un regard féminin. Mais c'était pour moi trouver une notion qui permettait de réfléchir à comment les expériences qui touchent de près les corps féminins sont représentées sur nos écrans. Et une de ces expériences-là, c'est le viol. J'ai mis longtemps à répondre à cette question, est-ce que le viol est quelque chose de représentable ? Et si oui, comment faire pour que cette représentation génère de la pensée ? Et la seule solution, ou en tout cas les seules représentations qui allaient dans ce sens-là pour moi, étaient les représentations qui adoptaient le point de vue de la femme victime de violences sexuelles et qui me mettaient dans son corps, dans son expérience. Et ça, ça se traduisait par une mise en scène et des codes visuels qui faisaient que j'arrivais à ressentir ce qu'elle ressentait. Les expériences du viol, en fait, elles sont représentées depuis le début du cinéma. Et le regard féminin, il existe depuis le début du cinéma. C'est juste que, comme le féminin a toujours été méprisé, lorsque ces expériences-là sont représentées par des femmes cinéastes, la plupart du temps, ces films ont été effacés de notre histoire. J'ai moi-même écrit donc cet ouvrage sur le regard féminin, et il y a 2 semaines, j'ai découvert un film dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle « Le village du péché » de Olga Preobrajenskaya, qui est une cinéaste russe qui, en 1927, raconte l'histoire d'une héroïne qui est violée par son beau-père et qui finit par se suicider parce que personne dans le village ne veut entendre son histoire ou en tout cas la croire. Ça m'a marquée parce que je me suis dit que, encore une fois, ce film est vraiment un très grand film et il avait été effacé et je suis tombée dessus par hasard en regardant le documentaire d'une autre femme cinéaste. Cet effacement m'interpelle beaucoup et les œuvres qui sont effacées m'interpellent beaucoup. Les représentations du viol, j'en ai découvert plusieurs en faisant de la recherche. Il y en a qui ont marqué à jamais mon imaginaire, comme Outrage de Ida Lupino, qui est une cinéaste américaine qui fait un film en 1950 sur les conséquences d'un viol pour une jeune héroïne qui va être confrontée à un stress post-traumatique très important. Et puis, il y a les séries. Et les séries, récemment, pour moi, ont pris en charge un certain nombre d'expériences du féminin, et notamment des violences sexuelles. Je pense à des séries comme Big Little Lies, je pense à des séries comme The Handmaid's Tale, je pense à des séries comme I May Destroy You de Michaela Cole. Ces séries m'intéressent parce que déjà, elles sont très grand public, elles circulent beaucoup plus facilement qu'un film russe de 1927 et qu'elles peuvent avoir un impact réel sur les vies de celles et ceux qui vont avoir accès à ces expériences du féminin, du point de vue féminin, et que ce female gaze va peut-être permettre aux gens, aux personnes, spectateurs, spectatrices, de se poser la question de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une héroïne lorsqu'elle est violée. Ce qui m'interpelle aussi, c'est que la plupart de ces séries-là travaillent autour d'un genre qu'on appelle le « rape and revenge », donc le viol et la vengeance. Ce genre-là, c'est en fait un sous-genre du film d'horreur ou du film gore. Et donc, le genre du rape and revenge a été utilisé pendant très très longtemps pour représenter le viol, mais du point de vue masculin, en érotisant l'acte de l'agression et en érotisant le corps des femmes victimes. Mais il y a une autre tradition dans le rape and revenge qui est une tradition féministe de réappropriation de ces codes. On peut penser à Thelma et Louise de Ridley Scott, qui est une œuvre majeure et qui est peut-être l'œuvre autour du viol ou de la tentative de viol qui a le plus marqué l'imaginaire. Mais on pense aussi à Baise-moi de Virginie Despentes et de Coralie Tritin. Et si on réfléchit en fait à I May Destroy You ou Big Little Lies, ces séries-là reprennent la même structure du rape and revenge. C'est une structure assez simple qui part du fait qu'une victime de viol va quasiment mourir et puis qu'elle va décider finalement de se venger en tuant son agresseur ou les hommes qu'elle considère comme étant des agresseurs. Pourtant, dans cette structure qui paraît assez facile comme ça à suivre, les séries ont amené d'autres choses parce que l'écriture sérielle permet d'aller peut-être plus loin dans qu'est-ce que ça pourrait être qu'une narration de rape and revenge. Ce sont aussi des représentations pour moi intéressantes puisque à la fois elles représentent l'agression sexuelle et en même temps des violences féministes. Et il est très important pour moi que dans ces œuvres-là, on représente des violences féministes parce qu'elles sont représentées d'une certaine manière. Elles sont représentées de manière à ce qu'on ne pathologise pas la violence des femmes. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, en fait, de montrer des femmes qui décident de réagir par la violence, non pas parce qu'elles sont hystériques, malades, dans des problèmes psychiatriques ou sous l'emprise d'un homme, mais juste qui décide d'utiliser la violence parce que rationnellement c'est le seul moyen de se défendre, ça impacte un imaginaire parce qu'en fait ça questionne la naturalisation des violences masculines. On dit toujours que les hommes sont violents parce que c'est quelque chose de biologique, que c'est une impulsion, qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et à partir du moment où on commence à questionner ces postulats de départ, on va vers plus d'égalité. C'est Colleen Cardy et Geneviève Prouveau qui ont écrit un livre très important qui s'appelle « Penser les violences féminines » et dans lequel elles disent que notamment d'accéder au pouvoir de la violence, c'est aussi un moyen d'accéder à la citoyenneté. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort dans cette notion-là, d'avoir des héroïnes qui utilisent les violences féministes, donc comme moyen de défense, pour accéder aussi à la citoyenneté et à être à égalité avec des représentations de personnages masculins. Colleen Cardy dit aussi que le tabou le plus ultime dans les représentations de violence faites par les femmes, ce sont les violences collectives. Ce sont les femmes qui s'organisent à plusieurs, entre elles, avec un but politique et féministe. Ça, c'est la chose la plus taboue qui existe. Et si on pense à Big Little Lies, en fait, Big Little Lies fait ça exactement. Je ne vais peut-être pas vous divulgâcher toute la série, mais il est question d'un homme qui viole une ou plusieurs femmes et de plusieurs femmes qui se mettent ensemble pour réfléchir à une stratégie politique afin de répondre à cet homme. Ces œuvres de rape and revenge sont souvent des œuvres qui divisent. Lorsqu'elles sont sous la forme de Big Little Lies ou de Thelma et Louise, on va vers des choses qui sont très grand public et qui sont passionnantes. Mais il y a aussi des œuvres qui dérangent beaucoup plus, comme Baise-moi ou comme I May Destroy You, qui sont pour moi des œuvres que l'on censure. Vous allez me dire, elles ont été censurées à cause de la pornographie dans le cadre de Baise-moi. Et dans I May Destroy You, le fait que cette série soit absente des Golden Globes parle peut-être plus d'un racisme systémique. Mais il me semble qu'il se joue autre chose dans le fait que ces œuvres-là soient censurées. Je pense que ces œuvres sont censurées parce que la notion de plaisir est au cœur de la notion de vengeance. Et je vais vous citer Nicole Brenez qui a écrit à propos de Baise-moi que Baise-moi en découle bien moins avec les rapports de domination entre hommes et femmes qu'avec un problème politique, la confiscation par l'idéologie du plaisir comme valeur. Il me semble que ces séries et ces films sont importants parce qu'elles replacent le plaisir comme valeur et que si le féminisme ne tue personne, il donne peut-être accès aux femmes à la jouissance et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il fait autant peur. Merci.
Merci beaucoup Iris Bray, c'était tout à fait passionnant. Nous allons enchaîner avec un tout autre sujet et j'appelle sur scène Mounia El-Khotny. Je vous présente aussi Mounia El-Khotny, vous êtes chercheuse en anthropologie du genre et de la santé. Vous êtes docteur de l'Université de l'État de New York à Albany. Vous êtes postdoctorante à l'EHESS au Centre d'études des mouvements sociaux. Vous êtes autrice, bien sûr, de nombreux articles sur la santé des femmes, les politiques de santé maternelle, la médicalisation de la santé reproductive, les discriminations d'accès aux soins et la marginalisation des savoirs médicaux traditionnels, en particulier au Mexique, où vous travaillez depuis une dizaine d'années. Vous avez été une des autrices de la nouvelle édition française actualisée de l'ouvrage « Notre corps, nous-mêmes », édité en 2020 aux éditions Hors d'attente, dont la première version américaine avait paru en 1973 et avait été adaptée en français en 1977. Et enfin, vous êtes la co-créatrice du formidable podcast « Impatiente » avec Maëlle Sigonneau, produit par Nouvelles Écoutes. C'est à vous, je vous laisse la parole.
Merci. Février 2015. Je suis au Mexique pour ma thèse. J'ai mal pendant mes règles. J'ai l'habitude d'avoir mal, surtout depuis que j'ai arrêté la pilule. Mais là, c'est différent. Les sages-femmes avec lesquelles je travaille me conseillent d'aller quand même passer une échographie. Je ne sais plus trop comment j'ai trouvé ce médecin, j'imagine qu'on me l'a recommandé. En regardant les images numériques sur l'écran, il me dit qu'il ne voit rien, qu'il n'y a rien, que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Il le sait bien, sa femme et sa fille ont mal, elles prennent un space-fond et on n'en parle plus. Bon, je paye ma consultation et je m'en vais. Je suis soulagée, un peu décontenancée. Avril 2015, mon amie Maëlle Sigonneau est en vacances en Normandie. Elle a des plaques rouges sous les aisselles. Un soir, elle sent une boule. Elle se dit que quelque chose ne va pas. Elle va voir un médecin généraliste de garde le lendemain. Il lui dit que ce n'est rien. Quand elle insiste, il lui répond « Enfin bon ». Pas d'antécédents, 29 ans, on pense tout de suite au cancer. Allons. Elle paye sa consultation et s'en va. Mais au fond d'elle, elle sent que quelque chose ne va pas. Depuis une dizaine d'années, je travaille au Mexique et plus récemment en France sur la thématique de la santé des femmes. J'ai rencontré des dizaines de femmes qui m'ont raconté leur grossesse, leurs accouchements, leurs expériences de différentes maladies, dont le cancer. Ce qui ressort, c'est que, à chaque fois, régulièrement, très souvent, elles n'ont pas été écoutées. Aujourd'hui, je veux réfléchir à ce que ce sexisme médical fait à leur santé, à notre santé. Tous les ans, au mois d'octobre, une campagne nationale, internationale même, appelée Octobre Rose, incite les femmes à aller se faire dépister contre le cancer du sein. C'est aussi l'occasion de rappeler les gestes de palpation du sein, d'autopalpation, avec ce message. Si jamais vous voyez des plaques rouges, vous sentez une boule ou qu'il y a quoi que ce soit, si vous avez un doute, allez consulter. La santé des femmes est médicalisée depuis les premières règles, la puberté, première prescription de pilule, jusqu'à la ménopause et même au-delà. On nous dit d'aller chez le médecin. Avec ce même message, si vous avez un doute, confiez votre corps à l'autorité médicale, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Et pourtant, lorsque les femmes se rendent chez les médecins, elles sont souvent pas écoutées. Elles sont méprisées, on leur dit qu'elles exagèrent, que c'est dans leur tête. Un article paru dans la revue Frontiers aux États-Unis en 1979 raconte le périple d'une femme qui a des douleurs et qui va consulter plusieurs médecins en disant quelque chose ne va pas. Elle finit chez une psychologue puisque les médecins lui ont dit que c'était dans sa tête. La psychologue la soutient dans sa recherche de diagnostic. Elle finit par trouver une médecin qui l'écoute, la croit et lui détecte une tumeur dans le sein. Ça vous rappelle quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand les femmes se rendre chez le médecin? Une autre maladie, l'endométriose. L'endométriose est une maladie qui affecte les personnes qui ont un utérus avec des douleurs très handicapantes pendant le cycle utérin. Ce qui se passe, c'est une errance, ce qu'on appelle une errance de diagnostic. Entre le moment où les personnes vont consulter une première fois et le diagnostic d'endométriose, il s'écoule en moyenne 7 ans, d'après une enquête récente d'EndoFrance. 7 ans où on va de spécialiste en spécialiste et on nous dit qu'on ne sait pas ce que c'est de prendre du spasfon, que ce n'est pas grave. Le sexisme médical, qui est la façon sexiste dont l'institution médicale traite les femmes, s'exprime aussi dans les attentes aux urgences. Par exemple, une étude qui a été réalisée à Gothenburg, en Suède, montre que les femmes attendent 11 minutes de plus en moyenne que les hommes aux urgences. 11 minutes, c'est très long, surtout quand on est aux urgences. Et cela peut entraîner un changement énorme de diagnostic et des impacts sur la santé, en particulier si on pense à des maladies cardiovasculaires où chaque seconde, chaque minute compte. Pour ma part, 4 ans plus tard, après ce rendez-vous chez le médecin mexicain, ma gynécologue à Paris m'a prescrit une IRM et on m'a détecté une forme d'adénomyose, qui est une forme d'endométriose. Pour Maëlle, 8 mois plus tard, c'est 8 mois plus tard qu'on lui a détecté un cancer du sein métastatique. Le sexisme médical, le fait de ne pas croire les femmes, peut aussi entraîner des maltraitances et des violences. Et ici, je voudrais faire le parallèle entre le parcours d'oncologie et le parcours de grossesse-accouchement. Les violences obstétricales sont venues sur le devant de la scène depuis 2015 et en particulier en 2017, lorsqu'un rapport a été commandé au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Là, les femmes se sont mises à parler, à raconter sur les réseaux sociaux les violences qu'elles ont vécues dans les cabinets des gynécologues, les violences gynécologiques, les violences qu'elles ont vécues pendant leur accouchement ou leur IVG, ce qu'on appelle les violences obstétricales. Et avec Maëlle, nous avons aussi réfléchi à ce que sont les violences dans le parcours du cancer, les violences oncologiques. Ces violences-là, elles apparaissent quand les femmes sont nues et vulnérables face à des inconnus qui regardent leur sein, leur vulve, leur vagin. Comment est-ce qu'on peut se défendre dans ces moments-là ? Les violences obstétricales et oncologiques ont la particularité de s'exercer sur des corps féminins. Pardon, j'ai un trac. C'est pas facile de parler de violence. Ces violences, qu'est-ce qu'elles font ? Elles éloignent les femmes et elles les empêchent de répondre. Comme je viens de le dire, on est vulnérable, on est nu face à des gens qu'on ne connaît pas. Elles s'exercent dans les cabinets des médecins où on est seul. C'est très rare d'être accompagné pour une consultation gynécologique, par exemple. Dans l'épisode 2 d'Impatiente, Maëlle raconte un épisode violent où, au cours de son parcours de cancer, elle était seule à une biopsie. Et là, le médecin est venu. Et malgré le fait qu'elle retire son consentement à la biopsie, qu'elle dise « non, arrêtez, j'ai mal », il a continué et il l'a laissée en pleurs et en sang. Les violences obstétricales, par exemple, ça peut être une épisiotomie, qui est une incision du périnée non consentie. Le point du mari qui est de recoudre cette épisiotomie un point plus serré avec l'idée que cela donnera du plaisir au conjoint, donc le corps des femmes au service du corps masculin. Les violences obstétricales, c'est aussi, et en ce moment, de nombreux témoignages sur l'expression abdominale. L'expression abdominale, c'est le fait d'appuyer sur le fond utérin pendant la phase d'accouchement. On a des témoignages très violents de personnes du corps médical qui appuient, et c'est une pratique interdite depuis 2007 par la Haute Autorité de Santé. Toutes ces violences, elles apparaissent dans des moments où les femmes sont vulnérables. Le parcours de cancer du sein, et qu'est-ce qu'on nous propose ? Le parcours de cancer du sein, c'est des traitements assez lourds. C'est des chimiothérapies où on perd ses cheveux, où on perd ses sourcils, où on perd ses ongles. L'accouchement, c'est un moment très intense. C'est un moment où on a mal. Dans le parcours du cancer du sein, les femmes auraient peut-être besoin de soutien, et c'est ce que Maëlle racontait, de soutien psychologique, de soutien administratif et financier. Ce qu'on lui propose, c'est de la réassigner à la féminité. Ce qu'on propose, et là je ne parle pas de choix individuels qui font que pour supporter ces traitements très lourds, on a besoin de se sentir belle, de se maquiller. Je parle vraiment du message qui est proposé aux femmes dans le parcours d'accompagnement du cancer du sein. Qu'est-ce qu'on leur propose ? On leur propose de mettre des perruques pour ne pas montrer qu'elles n'ont plus de cheveux. On leur propose de mettre des soutiens-gorge avec des prothèses pour ne pas montrer qu'elles n'ont qu'un sein suite à une mastectomie. Donc tout cela, ça fait rester dans le rang, comme disait Maëlle. On reste dans le rang, on reste féminine. Dans le cas de la grossesse et de l'accouchement, Qu'est-ce qui se passe? On propose aux femmes une péridurale. En France, il y a 75% de femmes qui accouchent sous péridurale. Ce n'est pas du tout le cas en Angleterre, dans d'autres pays. Donc, il y a vraiment quelque chose de culturel qui se joue. Et des études anthropologiques montrent que la péridurale a l'avantage de rendre des femmes silencieuses, de faire des accouchements silencieux. Donc, ce qu'on demande aux femmes, c'est de ne pas faire de bruit. Et celles qui refusent la péridurale et qui changeraient d'avis ou crieraient ou feraient trop de bruit, alors là, se voient gronder au mieux, disputer ou maltraiter verbalement. Les femmes n'ont qu'un seul chemin, c'est celui de la bonne patiente, la patiente qui est compliante, la patiente qui va chez le médecin quand on lui dit, qui pose des questions, mais pas trop attention, des questions au bon moment, et surtout ne remet pas en cause l'ordre médical. Ces deux exemples de l'oncologie et de l'obstétrique montre la silenciation qui s'opère sur les corps des femmes. Et ça, en tant qu'anthropologue, que chercheuse au Mexique, et en tant qu'autrice et militante dans le collectif Notre Corps Nous-Mêmes et dans le podcast Impatiente, c'est quelque chose qui ressort et qui est international. Des phrases violentes qu'on retrouve au Mexique, au Cambodge, en Afrique du Sud ou en France pendant l'accouchement, quand les femmes font du bruit, où on leur dit « tu ne criais pas comme ça il y a 9 mois, tais-toi pour rester ». Correct, ça montre quelque chose de systémique. Ce qui se passe ici, c'est l'institution médicale est au service du patriarcat et sert à rendre les femmes dociles, à les laisser dans le rang. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose? Oui, oui, on peut imaginer une autre médecine. Et c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça marche? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On voit des soignants et des soignantes qui s'organisent comme lors de manifestations contre les violences obstétricales et gynécologiques et aussi des réseaux de patientes qui se créent. Des patientes qui parlent entre elles. Parce que lorsque, dans le cas du cancer du sein, on n'a que des solutions cosmétiques à proposer, des réseaux se créent. Et ça, on a reçu énormément de témoignages dans le podcast Impatiente. Des femmes qui parlent entre elles au cours de l'accouchement et aussi autour du postpartum. Les réseaux qui se créent sont des réseaux de solidarité qui se font en dehors de l'institution médicale. Et lorsque les femmes arrivent armées de ces savoirs-là, de ces questionnements au sein de l'institution médicale, de nouveau, elles sont face à une porte close. Donc moi, je pense qu'on peut croire en une médecine qui ne soit pas une médecine patriarcale, qu'on voit des mouvements qui sont en train de s'organiser face à ces injonctions pour les déconstruire. Les moments de vulnérabilité que représentent le cancer, la maladie chronique, le handicap, en fait, constituent aussi des espaces où on peut questionner et sortir de la norme. Sortir de la norme, s'en défaire, c'est ce que font les femmes lorsqu'elles elles parlent entre elles et elles parlent en dehors du regard médical, du regard masculin, du regard des médecins. Donc la médecine peut être féministe et c'est à nous de la construire. Merci.
Merci beaucoup Mouniel Cotny pour votre témoignage et cette intervention courageuse sur la question médicale. Nous enchaînons maintenant avec Camille Froide-Vométry. Bonsoir Camille. Je vous présente, vous êtes, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes philosophe, professeur de sciences politiques à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, où vous êtes également chargé de mission égalité-diversité. Vos recherches sont consacrées aux mutations de la condition féminine consécutives au tournant de l'émancipation féministe. Vous les abordez dans une perspective phénoménologique qui place le corps au centre de la réflexion. Vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages très important, La Révolution du féminin, paru chez Gallimard en 2015, réédité en 2020 en poche chez Folio Essai, Le corps des femmes, la bataille de l'intime, publié chez Philosophie Magazine Éditeur en 2018, qui sera réédité cet automne en Point Seuil, et votre dernier ouvrage, l'année dernière, Saint, enquête d'une libération chez Anna Moza. Vous êtes également conseillère scientifique du film Les Mâles du siècle, réalisé par Laurent Maitry. Un film sur ce que le féminisme fait aux hommes ou pas, qui sortira donc le 8 mars 2021 et dont on peut voir déjà quelques aperçus dès à présent sur le site Les Mâles du siècle, lesmalesdusiècle.com, sur lequel vous pourrez effectivement voir le film une fois sa sortie faite le 8 mars. Je vous laisse la parole.
Merci. Mon corps m'appartient. La planète, ma chatte, souvent les eaux humides. Mon corps, c'est pas TripAdvisor. Tes commentaires, tu peux te les garder. Toute politique sur notre ventre ne se fera pas sur notre dos. Un enfant, quand je veux, si je veux. À bras le patriarcat. Ces slogans féministes qui ont tous en commun d'évoquer le corps des femmes date pour certains des années 70 et pour d'autres de la période toute contemporaine. Je les ai mélangés pour montrer la centralité de la question du corps des femmes dans le féminisme, question qui est comme un fil rouge qui relie entre elles toutes les périodes féministes, mais un fil rouge qui n'a pas toujours été tendu. Si le corps des femmes est à ce point central, c'est parce que, depuis toujours, depuis l'aube des temps ou à peu près, les femmes n'ont été que des corps définis par leurs deux fonctions, sexuelles et maternelles, et qu'on a enfermé pour cela dans la sphère domestique. Assignées au foyer, les femmes ont été privées de ce fait des privilèges de la participation à la vie sociale et politique. On les a tenues dans cette position mineure et subordonnée. Cette division sexuée du monde, qui est aussi une hiérarchie, d'un côté le privé féminin inférieur, de l'autre le public masculin supérieur, cette hiérarchisation sexuée, donc, c'est le socle de notre système patriarcal. Et c'est un système qui a traversé l'histoire, donc des origines antiques jusqu'à aujourd'hui, en survivant en quelque sorte d'abord au tournant de la modernité démocratique, parce qu'on trouve sous la plume de tous les grands théoriciens de la démocratie une réappropriation du cadre patriarcal et même son approfondissement, comme c'est le cas chez Rousseau, qui fait même de l'enfermement domestique des femmes la condition d'existence de la société démocratique. Et puis ce schéma patriarcal, il a aussi survécu à la révolution féministe, à la révolution de l'émancipation des années 70. Et de cela, nous avons eu la preuve flagrante tout à fait récemment, depuis qu'au début des années 2010, une nouvelle génération de féministes s'est saisie de toutes ces thématiques corporelles dans une dimension particulière, puisqu'il s'agissait surtout du corps intime des femmes, du corps sexuel. Et ce dont nous avons alors pris conscience de façon un peu brutale, c'est qu'il était resté un domaine de la vie des femmes, le domaine de leur vie intime et sexuelle, qui avait en quelque sorte échappé à la prise féministe. Alors ce que je voudrais montrer, et je suis heureuse de le faire après avoir écouté Iris Bray et Mounia El-Khotny, parce que vous allez voir que mon petit panorama historique et mes quelques petites explorations philosophiques vont venir compléter et englober tous les propos qu'on vient d'entendre de façon assez, assez idéale. Ce que je voudrais montrer, d'une part, c'est pourquoi c'est aujourd'hui et aujourd'hui seulement que l'occasion nous est donnée d'approfondir et peut-être même de parachever la dynamique d'émancipation corporelle. Alors le corps des femmes est présent dès la première vague, dans la seconde moitié du 19e et au début du 20e siècle, mais d'une façon un peu paradoxale, puisque c'est au nom de leur capacité maternelle que les suffragistes, dans leur grande majorité, vont revendiquer le droit de vote. Comment pouvaient-elles faire autrement dans un moment où elles ne pouvaient ni vivre ni même penser un affranchissement vis-à-vis de leur destin maternel ? Une fois ces droits civils et politiques conquis, s'en sont suivies quelques décennies de reflux féministes, jusqu'à ce que, à partir de la fin des années 60, début des années 70, la vague féministe enfle à nouveau et qu'elle enfle précisément sur cette question du corps des femmes. Deux lignes sont creusées, deux sillons sont creusés, celui de la lutte pour les droits procréatifs, droit à la contraception et à l'avortement d'une part, et puis celui d'une forme de première révolution sexuelle où il s'agit de libérer les femmes de la maternité, mais aussi de la conjugalité et de l'hétérosexualité obligatoire. Ce que cette seconde vague produit, c'est une vraie mutation anthropologique parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les femmes peuvent se projeter dans une vie sans enfants, dans un avenir même quasiment sans les hommes. Mais cette mutation anthropologique, j'en dirai quelques mots un peu plus tard, c'est aussi une libération sous condition. Dans les années qui suivent, les années 80, 90 et 2000, les thématiques corporelles disparaissent peu à peu à la fois des luttes et de la pensée féministe. Elles sont d'abord recouvertes par d'autres combats, dans le monde social et professionnel notamment, puisque c'est le moment de la féminisation massive du monde du travail. D'autres combats qui ont trait aussi à une première forme de d'ébranlement de la famille patriarcale, avec les luttes pour le Pax, par exemple, ou l'homoparentalité. Et puis c'est le moment aussi de théorisation de la notion de genre qui va marquer une inflexion absolument décisive, puisqu'à partir de là, on va commencer de penser la déconstruction des rôles genrés, soi-disant féminins ou masculins. Penser aussi une perspective incarnée qui soit débarrassée du cadre binaire et qui puisse se concevoir au prisme de la fluidité des genres. Tous ces combats ces nouvelles interprétations féministes aboutissent à une situation un peu curieuse au début des années 2000 où je m'aperçois que le corps des femmes a quasiment disparu du champ féministe. Je m'en aperçois parce que c'est le moment où je fais moi-même mon entrée dans le champ à la faveur d'un double événement qui produit en moi une déflagration. C'est le moment où j'ai mon premier enfant et où je commence aussi mon tout premier poste à l'université dans une synchronicité de quelques semaines. En éprouvant cette condition duale, qui me paraît singulièrement compliquée, même si tout le monde autour de moi trouve ça absolument merveilleux que tout m'arrive en même temps, je me penche donc sur les écrits féministes et je découvre assez vite que je ne trouve pas de réponse aux questions que je me posais alors, notamment sur cette question de la maternité. En creusant encore un peu, je m'aperçois que c'est au-delà de la maternité, le corps féminin, qui est singulièrement absent de ces travaux que je peux lire. Et je commence donc à travailler et à réfléchir à la question, jusqu'à m'engager moi-même, donc en opérant vraiment un virage dans mes recherches sur ce terrain et à commencer l'écriture de la révolution du féminin. Ce livre paraît en 2015, et pour dire les choses comme elles se sont passées, il reçoit un accueil relativement frais dans le champ féministe, notamment parce que on me reproche de réenfermer les femmes dans leur nature, puisque je m'intéresse à l'expérience vécue de la maternité, par exemple. Je m'intéresse aussi à ce que signifie le souci de l'apparence, qui est celui des femmes depuis à peu près toujours. En 2015, ça paraît très proche et en fait, c'est très lointain parce qu'en 5 années, il s'est produit véritablement presque une nouvelle révolution, ce que j'ai appelé la bataille de l'intime. Au début des années 2010, on voit toute une série d'initiatives dans le champ féministe qui émanent de femmes plutôt jeunes, une nouvelle génération, celles qui ont aujourd'hui une petite trentaine, et qui vont investir non seulement des thématiques corporelles, mais même des thématiques génitales, puisqu'elles ont en commun de concerner la génitalité. Mounia l'a évoqué tout à l'heure, donc il y a la question des règles qui est quasi originelle, associée à la question de l'endométriose, la question des violences gynécologiques et obstétricales, la question des organes génitaux que l'on redécouvre, le clitoris en majesté et avec l'exploration de la sexualité et du plaisir féminin que cela implique. Et puis le grand sujet des violences sexistes et sexuelles qui se cristallise dans le moment paroxystique que constitue MeToo. MeToo forme une forme de déflagration parce que ce qui est alors révélé, c'est un vrai scandale, le scandale de la perpétuation de la condition objectivée des femmes par-delà la rupture de l'émancipation. Tout s'est un peu passé comme si les femmes avaient dû payer leur émancipation sociale du prix de leur aliénation corporelle perpétuée. Et c'est ce scandale donc qui est révélé et qu'il s'agit aujourd'hui de renverser. Alors pour penser cette nouvelle condition incarnée et pour accompagner aussi la dynamique actuelle, il faut, je crois, réfléchir à peut-être de nouvelles notions, en tout cas à une nouvelle interprétation possible du corps féminin, une interprétation qui nous débarrasse un peu du vieux face-à-face entre le féminisme universaliste d'un côté et le féminisme différentialiste de l'autre. Honnêtement, je crois que ce vis-à-vis est, pour ainsi dire, obsolète. Je propose pour ma part d'engager une réflexion phénoménologique. Alors je me fonde pour cela sur une relecture de Simone de Beauvoir qui inaugure de façon magistrale ce féminisme phénoménologique en définissant le corps des femmes comme le lieu par excellence de la domination masculine, bien sûr, mais également comme un vecteur privilégié de l'émancipation. Et c'est cette dualité, ces deux facettes, négatives et positives, qui constituent la spécificité du féminisme phénoménologique, l'aspect positif ayant été relativement peu repéré chez Simone de Beauvoir, mais il est pourtant bien présent et je m'attache en ce moment à le mettre au jour dans l'ouvrage que je suis en train de finir d'écrire. Je me fonde aussi sur une philosophe américaine qui s'appelle Iris Marion Young, qui a repris de Simone de Beauvoir ce prisme phénoménologique de l'expérience vécue et qui le travaille dans une perspective de genre puisqu'elle l'articule à la notion de genre. À partir de là, il devient possible d'explorer ce que signifie, le sens que revêtent les modalités incarnées de l'existence des femmes aujourd'hui, en s'attachant à réfléchir quelque chose qu'on peut appeler le corps féminin. Dans cette caractérisation, ce qui m'intéresse surtout, c'est cet adjectif féminin qui est hautement problématique dans le champ féministe puisqu'il est généralement assimilé à la féminité. Or, ce n'est pas la même chose. La féminité renvoie à un ensemble de représentations qu'on considère comme étant indissociables de toute existence féminine, des représentations qui font signe vers, disons, 3 injonctions majeures, disponibilité sexuelle, dévouement maternel et subordination sociale. Le féminin n'est pas la féminité, notamment parce qu'il n'est pas seulement construction sociale, ni pas seulement réalité naturelle ou biologique, il est davantage que cela. Je propose de le définir comme un rapport à soi, aux autres et au monde, nécessairement incarné et de ce fait déterminé par le corps. Tous les jours, chaque jour de l'année, tout au long de leur existence, les femmes sont leur corps. Quoi qu'elles fassent, que ce soit vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis des autres, dans leur vie professionnelle, dans les relations qu'elles nouent, amicales, amoureuses, professionnelles, elles sont leur corps. Alors on pourra m'objecter que les hommes aussi sont déterminés par leur corps et qu'ils subissent des injonctions esthétiques, certes, mais il n'y a vraiment absolument aucune mesure entre les discriminations et les violences que les femmes éprouvent du fait même d'avoir un corps sexué féminin et ce qu'éprouvent les hommes, en l'occurrence, et même tout l'inverse, puisque ce sont eux qui exercent ces discriminations et ces violences. Je précise tout de suite, et c'est vraiment crucial de le faire, que pour être un corps féminin, nul besoin de sein ou d'utérus. Être un corps féminin, c'est éprouver quotidiennement donc ces discriminations et ces violences, c'est faire l'expérience vécue de ces atteintes à la dignité et à l'intégrité corporelle, parce que toute femme a subi ou subira ces atteintes. Toute femme, c'est-à-dire aussi les femmes trans, dont je considère que de ce point de vue-là, elles sont sans doute encore davantage que toutes les femmes en position de subir ces violences. Donc s'il y a bien des femmes qui ont un corps féminin, ce sont les femmes trans. Et puis il y a par ailleurs des femmes qui cumulent des facteurs d'oppression, qui en raison de leur classe sociale, des discriminations raciales qu'elles subissent ou de leurs conditions de handicap, eh bien éprouvent de façon encore plus intense et bien souvent dramatique cette condition objectivée. Le moment féministe que nous vivons est précisément le moment où nous avons décidé de nous ressaisir de toutes ces dimensions incarnées de nos existences à tous les niveaux et jusque dans le plus intime de nos vies, parce que si nous sommes nos corps, le moment est sans doute venu que nous devenions enfin des corps sujets. Je vous remercie.
Merci beaucoup Camille Froide-Vaumétry pour cette communication, cette intervention inspirante. Pour terminer, je vais laisser la parole à Noémie Delattre. Alors, Noémie Delattre n'est pas avec nous ce soir, mais elle a gentiment accepté de se filmer, de s'enregistrer, de nous envoyer sa vidéo. Donc, vous allez assister à sa vidéo en direct via les réseaux sociaux. Je présente malgré tout Noémie Delattre, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Donc, Noémie Delattre est autrice, actrice et metteuse en scène. Noémie Delattre a joué dans de nombreux films, téléfilms, séries et pièces de théâtre. Son dernier seul en scène, Féministe pour hommes, que je vous recommande vivement, était donné dernièrement au Théâtre de la Pépinière et en tournée. Il sera bien sûr repris dès que la situation sanitaire le permettra. Noémie Delattre est également essayiste et a fait paraître Un homme sur deux est une femme en 2016 chez Flammarion. Noémie Delattre a également été chroniqueuse de radio sur France Inter dans les émissions On va tous y passer et La bande originale. Vous pouvez envoyer la vidéo. Merci.
Bonjour. À l'heure où les députés proposent des lois pour interdire l'écriture inclusive, où l'Académie française refuse ou tolère les féminins de certains titres et métiers, et où globalement on s'inquiète, on est en panique absolue devant ce péril mortel que serait la féminisation de la langue française, je voudrais faire une petite mise au point, ou disons un petit rappel des faits. Voilà, là, en gros, on a l'impression que depuis la nuit des temps, par une ordonnance naturelle, par un décret divin, par une logique implacable et indiscutable, depuis la nuit des temps, en somme, le masculin a toujours été neutre. Voilà, l'homme a toujours représenté l'humanité. Et on a évidemment toujours dit un médecin, un philosophe, un avocat, comme on dit, un tabouret et un radiateur. La belle affaire. Voilà, le monde tourne ainsi depuis toujours et ça n'a jamais tué personne, ce me semble. Et maintenant, on nous raconte que quelques femelles hystériques, des féministes, sans doute velues et gouines, cherchent à bouleverser tout ça. Comme des valkyries enragées, elles veulent subitement, comme ça, sans raison sensée, détruire l'ordre établi. Tout ça parce qu'elles préféreraient dire une tabouret et un chaise, alors que ce serait quand même toujours un cul qui se posera dessus. Humour d'académicien. Donc voilà en gros ce qu'on nous raconte. C'est ce que j'appellerais la vérité hystérique. Maintenant, je vais vous raconter la vérité historique, qui est tout autre. Depuis l'origine de notre langue, l'usage, qui a longtemps été la seule chose importante puisqu'il n'y avait pas d'imprimerie, pas d'école, pas d'université, pas de traces, l'usage a toujours été parfaitement égalitaire entre le féminin et le masculin. On disait une médecine, une avocate, une autrice. Et Eliane Viennot nous apprend même que les participes présents et les pronoms réfléchis, eux-mêmes, s'accordaient au féminin. Par exemple, moi aujourd'hui, je vais dire « étant malade, je suis restée chez moi ». À l'époque, je disais « étant malade, je suis restée chez moi ». Ou alors, pareil pour les pronoms réfléchis, je disais, je ne disais pas « malade, je le suis aussi », je disais « malade, je la suis aussi ». Je ne sais pas pourquoi je prends « malade » comme exemple, c'est un peu déprimant. Enfin bref, vous avez compris le principe. Tout s'accordait au féminin ou au masculin. Donc chacun et chacune pouvait s'exprimer tranquillement en son nom et en son genre, et tout allait très bien, et on vous embrassait très fort. Et comme par hasard, dans cette société où les mots existaient au féminin, eh bien, les femmes pensaient, savaient, décidaient et jugeaient. Voilà, alors ce qu'on a commencé à faire, hein, c'est en faire cramer une bonne partie sur les bûchers de l'Inquisition. Voilà, comme ça on était débarrassés. Alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse historique. Donc, il fut un temps où les femmes avaient la science, notamment la science du contrôle des naissances, des avortements, des accouchements, de la gynécologie. Enfin, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, justement. Mais avaient la science du corps des femmes et se débrouillaient très bien entre elles. Elles avaient aussi la science des plantes et de tout un tas de médecines. Et puis, des pestes et des guerres ont ravagé l'Europe et ont fait une véritable hécatombe. Et donc, il a fallu repeupler. Et donc là, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les gars d'église et d'État? Ils se sont dit, pop, pas question que les femmes avortent ou contrôlent les naissances. Là, on a besoin de rejetons, de rejetons, de rejetons, de rejetons. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, bon, on a brûlé celles qui savaient, hein, et leur savoir avec elles. Et puis, on a inventé une discipline qui s'appelle la gynécologie, la médecine des femmes, qui était une discipline, je vous le donne en mille, interdite aux femmes. Est-ce que c'est pas drôle? Voilà, donc c'était maintenant les hommes qui pouvaient s'assurer que les femmes n'allaient pas avorter ou se contracepter d'une manière ou d'une autre. Et puis, donc, ils ont brûlé les femmes, ils ont créé la gynécologie, et en plus de ça, c'était aussi le moment des universités, et on en a exclu les femmes. Voilà, pour être sûr qu'elles ne recommencent pas à apprendre et à savoir et à se débrouiller toutes seules, voilà, on les a tout simplement bannies de toute forme d'éducation, de culture, de science et de savoir. C'est bon, non? Mais bon, il y a quand même des gens qui sont un petit peu révoltés en disant « oui, dis donc, c'est quand même pas très sympa, voilà ». Et c'est ce qu'on a appelé la querelle des femmes. Eliane Viennot, encore une fois, en parle très très bien et qui a duré pendant des siècles. Et dont la question était en fait « qu'est-ce que les femmes ont le droit de faire, de dire, de porter, d'apprendre ?» Enfin voilà, c'est-à-dire que d'un coup, c'était devenu un sujet public qui leur échappait complètement. Vraiment, on adore. Bon, mais visiblement, ça n'a pas été suffisant, hein, à croire que la femme est coriace, puisque celles qui ont survécu ont continué d'écrire, de publier, de conseiller les princes et les rois, d'être jouées à la cour, etc. Et même au cours des XVIe et XVIIe siècles, il y a eu beaucoup de régentes qui ont gouverné et qui ont assuré leur mère, quoi. Et puis là, bim, Richelieu, Académie française, et un siècle plus tard, Révolution française, et là, c'est mort. Là, c'est mort, et là, écoutez-moi bien, c'est là qu'on a masculinisé la langue. Et oui! En gros, l'idée, c'était, il n'est pas question que les femmes aient le droit de vote, il n'est pas question qu'elles pensent, qu'elles réfléchissent, qu'elles dirigent, qu'elles soient là, qu'elles marchent sur nos plates-bandes. Donc, on va les exclure de tout ça, en commençant par les bannir des universités, et par leur enlever le droit d'exercer toutes les professions un petit peu sympas, un petit peu intellectuelles et un petit peu de pouvoir. C'est quand même marrant de voir, hein, les mots qui ont été supprimés et ceux qui n'ont pas été supprimés. Par exemple, poétesse, philosophesse, vaincresse, ça a été supprimé, mais comtesse, princesse, duchesse, enfin toutes des meufs en robe qui servent à rien, qui sont violées par leur mari, ça, on a gardé. Ou pareil, c'est quand même génial de voir que l'Académie française accepte le féminin de maître d'école, maîtresse d'école, mais pas le féminin de maître de conférence, maîtresse de conférence. Quand même génial. Pareil pour directrice. Directrice d'école, ok. Directrice de thèse, non. C'est quand même vraiment magique. C'est-à-dire que les gars se cachent même pas, quoi. C'est vraiment du sexisme ouvert. Et c'est d'ailleurs vraiment ça mon propos. Et je cite encore Eliane Viennot qui dit « La langue française n'est pas née sexiste, elle l'est devenue par la violence des lettrés masculinistes pour entraver l'égalité homme-femme. » Et oui, car la règle du masculin l'emporte, par exemple, n'est pas une règle de grammaire, comme on cherche à nous le faire croire, c'est une règle sociale qui fait des ravages dans la tête des enfants et futurs adultes, et on y reviendra plus tard. D'ailleurs, à propos de tous ces choix linguistiques de l'Académie française, toutes ces choses qui sont acceptées ou refusées, je tiens quand même à préciser qu'à l'Académie française, il n'y a aucun ni aucune agrégé en grammaire ou en lexique, il n'y a aucun ni aucune linguiste et personne, absolument personne, de compétent en ce qui concerne le bon usage de la langue. C'est quand même marrant, voilà. Bref, tout ça pour dire, et c'est vraiment le but de mon propos, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit en aucun cas de féminiser la langue, mais il s'agit de la démasculiniser. Et c'est une urgence absolue. Enfin, si nous souhaitons réellement une égalité entre les hommes et les femmes, et si l'égalité homme-femme est vraiment la grande cause du quinquennat, pardon, alors il est impératif et urgent de le faire. Enfin, je veux dire, comment espérer une égalité politique dans un pays qui est le pays des droits de l'homme ? Et qui est le seul pays des Nations Unies, y compris le seul pays francophone, à dire droits de l'homme au lieu de droits humains. Le seul. Comment espérer une égalité civique dans un pays dont la devise est liberté, égalité, fraternité, qui, je le rappelle, vient de frères, qui, je le précise si nécessaire, ne concerne donc que les hommes. Comment espérer une égalité salariale dans un pays où les médecines, les avocates, les professeuses, les pompières et autres chefs n'existent pas ? Comment espérer une égalité sociale dans un pays où on bourre le crâne des enfants avec le masculin l'emporte ? Le masculin l'emporte sur le féminin. Et comment espérer une égalité réelle dans un pays où on nous fait croire que le masculin est neutre alors que toutes les études du monde montrent que lorsque l'on entend du masculin, on a une représentation mentale d'homme. Si je dis « les infirmiers fument dehors », les gens vont visualiser des hommes qui fument dehors. Voilà. Pour visualiser des femmes aussi, il faut dire les infirmiers et les infirmières. Toutes les études du monde le prouvent. Bref, je pense qu'il est urgent et nécessaire de changer la formule « droit de l'homme » partout où elle est utilisée en droits humains. Urgent et nécessaire de cesser d'enseigner cette règle du masculin l'emporte pour la remplacer par les deux règles d'accord qui ont existé jusqu'à la fin du XVIIe siècle et qui sont la règle de proximité. Un homme et une femme sont belles, une femme et un homme sont beaux. Voilà, quel est le genre du mot le plus près de l'adjectif. Ou la règle de majorité, 1000 femmes et un bulot sont belles, s'il vous plaît. Voilà, parce que pour l'instant, avec le masculin l'emporte, on est censé dire 1000 femmes et un bulot sont beaux, ce qui, pardonnez-moi, me fait un petit peu mal au sein. Voilà, et enfin, urgent et nécessaire d'utiliser tous les outils regroupés sous ce qu'on appelle l'écriture inclusive, mais qui sont la règle d'exhaustivité, c'est-à-dire dire messieurs et mesdames, les étudiants et les étudiantes, les hommes et les femmes, enfin voilà, on va pas mourir de dire deux mots au lieu d'un, d'utiliser des mots épicènes, les élèves, les étudiants et étudiantes, le public au lieu de spectateurs-spectatrices, etc., des mots généraux, les productions, les théâtres, les administrations, le salariat, enfin voilà. L'usage de néologismes aussi, une langue évolue et c'est formidable. Les yel, les c'est-le, les c'est-lui, et lui, c'est toust, qui sont absolument formidables, notamment à l'écrit. Et enfin, en dernière course, ce fameux point médian qui exaspère tant, mais qui nous fera pas mourir, vraiment, je vous jure. En revanche, le sexisme de la langue, lui, peut tuer. Tuer, privé de droits, de confort, de justice ou d'équité. Souvenez-vous par exemple quand même du suffrage universel qui ne concernait que les hommes. Voilà. Les mots. Donc démasculinisons la langue française et vive la France.
Merci beaucoup Noémie Delattre pour votre vidéo avec ce plaidoyer convaincant et fait aussi de manière ludique comme vous avez l'habitude de le faire. Alors nous n'avons pas particulièrement de questions sur nos réseaux sociaux. Aussi je vais remercier très très chaleureusement pour leur prestation nos quatre invités donc ce soir, Camille Froide-Vaumétry, Mouniel Cotny, Iris Bray et bien sûr aussi Noémie Delattre. Je remercie bien sûr l'ensemble du public qui nous a suivis ce soir. Je remercie aussi nos partenaires qui nous suivent sur l'ensemble de ce cycle, le magazine Cosette et la newsletter Les Glorieuses. Je remercie aussi bien sûr nos collègues de la régie audiovisuelle et du service communication qui nous ont permis de mettre en place cette séance de manière très professionnelle, qui nous ont permis de la diffuser en direct. Et donc cette séance sera visible en replay à partir de dès tout de suite maintenant sur notre compte Facebook. Et puis aussi prochainement sur la web télé de la BPI, donc directement sur le site de la BPI ainsi que sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé pour prolonger cette thématique, n'hésitez pas à aller sur le site de la BPI où vous trouverez une bibliographie sélective d'ouvrages sur le féminisme, où vous trouverez bien sûr tous les ouvrages de nos intervenantes de ce soir. Et je vous donne rendez-vous le 8 mars, date symbolique bien sûr, pour la prochaine séance de ce cycle consacrée à la libération des plaisirs et des imaginaires féministes, où seront rassemblés Fania Noël, Elvire Duvel-Charles, Élise Thiébaud, qui seront interviewés par Charlotte Bien-Aimée. Très bonne soirée.